Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.net.
It was dark times, Harry, dark times. Voldemort started to gather some followers, brought them over to the dark side. Anyone that stood up to him ended up dead. Your parents fought against him. But nobody lived once he decided to kill him. Nobody, not one, except you.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Malbino et je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonf. Comment ça va ce matin, David?
Ça va endormi en masse, mais ça va bien.
C'est correct.
Comment ça va toi?
Ah, ça va. Je crois. Je pense, je sais pas, ça fait pas assez longtemps que je réveille.
C'est ça, t'as-tu fait le party hier soir?
Non. J'ai écouté un épisode de Twin Peaks avant d'aller me coucher. Ça m'a pris comme une heure à m'endormir. Pas à cause de l'épisode de Twin Peaks.
C'est ça.
Bien que ça soit assez weird, merci. Mais j'ai passé à travers. Parce que tu sais, j'ai commencé la semaine passée, j'avais commencé un peu.
Oui.
J'ai écouté toute la première saison qui a 8 épisodes. Mm-hmm. Puis je suis rendu, je crois, au 11e épisode de la deuxième saison, ce qui est la moitié de la deuxième saison. Fait que je me suis quand même clenché 19 épisodes de Twin Peaks en une semaine et demie.
Bravo.
Surtout que le premier de chaque saison, c'est une heure et demie.
Quand même. Écoute, moi, j'ai eu de la misère à écouter le film de la semaine. Fait qu'on était supposé d'enregistrer l'épisode spécial pour nos patrons. Après l'épisode 68 de Vision X. Puis écoute, j'ai juste pas réussi à écouter la trame sonore. C'était une grosse semaine.
C'est bien une grosse semaine. C'est bien d'être occupé. Là,
mais c'est sûr.
Il y a quand même bien
je jouais à Montréal Symphonique hier soir, là, l'espèce d'affaire avec les trois orchestres symphoniques sur le Mont-Royal. Avec l'OM, l'OSM puis l'Orchestre symphonique de McGill. Puis c'était vraiment une grosse affaire, man.
Ouais, c'est clair, là.
Il y avait 50 000 personnes qui étaient sur l'espèce de petite colline du Mont-Royal. Ça me rappelait ma fin 3.
C'est ça, ouais. Non, mais j'ai lu l'article du Devoir, par exemple, avant, puis un peu les commentaires de Christophe Huss qui, comment on dirait en anglais, il déchirait un nouveau trou de cul à cet événement.
Ah ouais? Il a pas aimé ça?
Non, ben, c'est avant, juste le concept que ça soit quelque chose pour célébrer Montréal, mais qui est très peu montréalais dans un sens, il trouvait ça un peu désagréable. C'était pas vraiment...
peu montréalais?
Ben, tu sais, c'est pas nécessairement représentatif d'un show symphonique montréalais. Il y avait...
Ben, mais ça, j'avoue que c'est un peu étrange qu'il appelait ça Montréal symphonique. C'est juste parce qu'il y avait trois orchestres symphoniques, mais c'était un show pop, là. Tu sais, c'était pas de la musique symphonique. On a fait une couple d'un truc de Strauss et un autre truc de Mahler, mais c'était pas un show symphonique, c'était un show pop.
Ouais.
Mais les artistes pop, par contre, étaient vraiment... c'était bien sélectionné, je trouve. Il y avait une affaire qui dit... Une chanson qui disait « C'est ici que je veux vivre ». Ça parlait des divers. Il y avait du Daniel Bélanger. Il y avait Wyclef Jean. Man, Wyclef Jean, j'écoutais les Fugees quand j'étais au secondaire, man. J'étais un petit kid, là, j'écoutais du Wyclef Jean. C'était vraiment quelque chose. Mais il représente bien la diaspora haïtienne. Moi, je trouvais que ça représentait très, très bien, en fait, ce que c'est Montréal. Mais est-ce que ça représente bien ce que c'est le Montréal symphonique?
Ouais. Puis tu lui parlais du concept. OK, oui, c'est supposé de représenter Montréal. Mais OK, l'OM, l'OSM, ça va bien. Ça c'est parti. Le McGill.
L'Orchestre des Jeunes.
Mais pourquoi il n'y a pas genre... Pourquoi il n'y avait pas l'UM et le conservatoire? Si c'est supposé de représenter Montréal symphonique, ça aurait pris tout le monde.
Ouais, mais je crois qu'ils ont été obligés d'engager des jeunes pour des subventions. Moi, c'est ça mon feeling.
Ah.
C'est qu'ils ont dit, faut inclure des jeunes. Mais l'affaire, c'est que l'orchestre de l'Université de Montréal, c'est vraiment pas ce que c'était avant. C'était immense. À cette heure, il manque de violon. Puis Puis, c'est McGill, je pense que c'est ceux qui ont le plus de fonds. Fait qu'ils ont engagé beaucoup, beaucoup d'anciens. Qu'il y avait bien des anciens.
Fait que bref, ça, non, c'était intéressant comme vision de la patente. Je trouve, mais bon, c'est, quand tu fais ce genre d'événement-là, c'est toujours comme ça. Mais bon, hein, on va pas faire une émission d'une heure sur... Ça sera l'émission de la semaine prochaine. On fait une émission d'une heure sur...
c'est ça.
Sur l'état
on
de
va
la
faire
musique.
Notre émission hommage à John Hurt.
Hommage à John Hurt, qui a un très gros rôle dans le film que David va nous présenter.
Cette semaine, nous avons écouté Harry Potter and the Philosopher's Stone, ou en français, Harry Potter et... à l'école des sorciers. Voilà, c'est le titre en français qui n'a pas rapport avec... Pardon?
C'est l'aile, le titre en français, je m'excuse, mais...
Non, c'est... Enfin, bref, pour les rares d'entre vous qui n'auraient pas écouté le film ou qui n'auraient pas lu le roman, il s'agit donc d'un petit... un petit garçon qui découvre qu'il est sorcier, s'en va donc à l'école des sorciers Poudlard, se fait deux nouveaux amis dans les personnes de Hermione Granger et Ron Weasley. Et bref, ils sont à la recherche. Ils pensent qu'un des professeurs leur veut tuer Harry, mais finalement, ils essaient de le protéger. Oh, spoiler. Puis bon, bref, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un dans l'école qui court après le Philosopher's Stone, la pierre philosophale, voilà. Excusez, j'ai tellement d'allergies, j'ai vraiment envie d'éternuer. Bref, c'est ça. Et puis, ils se rendent compte qu'à un moment donné, c'est pas le bon prof qui suspecte. Et puis, t'as-tu fini de me spaghettifier?
Non, ça va. T'es déhamburgerisé cette semaine, c'est pour ça que je te replaçais. C'est la semaine passée, tu sais, c'est un callback, c'est la semaine passée. David était hamburgerisé.
Voilà, bref, c'était mon synopsis de Harry Potter et le and the Philosopher's Stone. C'est pas mon meilleur résumé, mais c'est parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses.
Ah ouais, ben il se passe bien des affaires, puis en plus, fallait que tu fasses un résumé pendant que tu changeais de grosseur à l'écran. C'est un peu déconcentrant, j'imagine. Mais tu sais, pour les gens qui ont jamais utilisé Skype, là, c'est un mystère de la vie. On dirait qu'à chaque semaine, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Là. C'est joyeux. Mais c'est comme Harry Potter, tu sais, c'est magique. Il y a plein de choses.
Voilà, un lien!
Non, mais écoute, c'est vrai qu'il se passe énormément d'affaires. Le film est long, là.
Ah oui, c'est un long film. Là, on parle d'une bonne 2h30, un bon 2h32. C'est ça, évidemment, dans un roman... c'est pas un long roman. On parle de quoi? 200 pages?
Peut-être? C'est le plus petit de la gang.
Ouais, c'est le plus petit. Tant qu'à moi, c'est le meilleur. Mais... c'est un commentaire éditorial, ici.
Ouais, non, en tout cas, côté roman, je pense pas que c'est le meilleur, mais bon.
Non, mais c'est parce que c'est vraiment celui qui a été écrit pour des enfants.
Ouais.
Après ça, okay, là, on parle du premier Harry Potter, on n'est pas supposé de parler des autres, là, mais c'est juste qu'après ça, je trouve que le J.K. Rowling, elle aurait essayé d'aller chercher un public plus large, mais ça a comme dénaturisé le produit d'origine. Fait qu'elle a essayé de construire sur une histoire pour enfants, puis essayer d'inclure les adultes là-dedans. Puis je trouve que c'est un peu...
Mais tu vois, moi je vois ça différemment. Moi j'ai toujours vu ça comme elle a suivi son public. Tout
ouais,
simplement.
Mais c'est ça. Mais elle a suivi le public, elle a pas suivi l'histoire. Elle a
correct.
Pas construit ça.
Pour moi, c'était un des génies de cette affaire-là. C'est que ça le public vieillissait et l'histoire vieillissait avec le public. Là, fait, en tout cas. Mais pour revenir au film, ce que je trouve pas pire quand même, c'est que tu sais, il y a toujours un... OK, faut pas s'attendre à une transposition exacte quand tu regardes un film qui vient c'est un roman qui a été adapté en film. Il y a souvent des gens qui sont déçus dans ces situations-là parce qu'ils font que ben, c'était pas comme dans le livre. Ben oui, c'est sûr, ça sera jamais comme dans le livre parce qu'il y a le facteur, quand tu lis un livre, tu imagines... C'est, tu les vois, les personnages.
Parce que moi, le livre que j'ai lu, c'est pas le même livre que toi, t'as lu.
Ben, c'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que ça sera jamais. C'est impossible que ça soit comme dans le livre. Ceci étant dit, l'adaptation du roman au film de Harry Potter and the Philosopher's Stone est exceptionnelle.
Ah oui, non, c'est hallucinant. On rentre dans un univers, un monde féerique, fantastique, magique, complètement capoté. Écoute, chacun des anniversaires, là, l'Halloween, Noël, tout ça.
Ah ouais.
Ah, man, c'est féerique, là, ça n'a aucun bon sens. Les décorations qui changent, c'est vraiment un univers de magie.
Mais parlons, on va en parler, on va essayer de découper un peu ce qu'on voit. Puis ça suit aussi, on va suivre le chemin de Harry en parlant un peu. Premièrement, ce qui est génial, c'est qu'on nous explique rien.
Ouais.
Donc on est comme Harry, on est là, puis
on découvre au fur et à mesure que...
Ouais, et à chaque fois, on fait comme « Wow! Wow! Ah, » tu sais, ce monde-là nous est donné au compte-gouttes, puis c'est ça, on le découvre, puis on a le même émerveillement qu'Harry, ce qui est génial dans la façon de faire. Premièrement, la première approche qu'on a au monde des magiciens, à part la petite intro là, où on voit Dumbledore puis McGonagall, tout ça, qui viennent d'amener bébé Harry, c'est quand tu rencontres Hagrid, quand il vient chercher Harry, là.
Ouais.
C'est une scène absolument magnifique. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là.
Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que, tu sais, comment je pourrais dire ça? Ce qui est magnifique avec l'univers magique, c'est le fait que ça soit un peu plus grand que nature.
Ouais.
C'est le fait que le château est immense, que la magie existe finalement, qu'il y a un train à travers le mur, puis tout. Mais donc, c'est un univers plus grand que réel. Puis là, t'as Hagrid qui arrive, qui est vraiment plus grand que le réel, littéralement, là, ça n'a comme pas de bon sens, là. Mais en fait, on se rappelle que c'est un demi-géant, ou ouais. Un demi-ogre, je sais pas quoi, là.
Un demi-géant.
Demi-géant. Fait que, c'est magnifique, là. Puis avec la queue anti-bouchon.
Sur la cousine, là.
Excuse-moi. Continue, je me mouche.
Ouais, mais c'est ça, c'est une super belle scène. Puis tout de suite, ça introduit un peu le côté. Ça introduit très bien le personnage d'Hagrid, on s'entend. Mais ça introduit que la surprise, le côté qu'on sait pas ce qui va arriver. Puis. Ça introduit bien aussi le personnage d'Harry, je trouve, parce que Harry est énormément naïf, là, puis dans toute cette scène-là, je trouve que trop vite, il est friendly avec Hagrid. Là. Moi, je sais pas, man, s'il y a un gros doute de même qui débarque chez nous, là, je vais pas être tout de suite comme « Hey!
» Oui, mais il y a Hagrid, tu sais, il y a quand même quelque chose de bon enfant de ce personnage-là. Là. Le fait que, justement, c'est une main de velours dans un gant de fer...
C'est
l'inverse de ce qu'on dit d'habitude, là, mais tu sais, il est vraiment grand, il est vraiment gros, mais il est tellement tendre à l'intérieur, tu sais.
Ah ouais.
D'ailleurs, je t'ai déjà parlé de ma théorie du gros chien et du petit chien, là. Lui, c'est clairement un gros chien. Tu sais, il n'a pas besoin de parler fort, il n'a pas besoin d'être agressif parce qu'il prend déjà beaucoup de place, tu
sais. Ouais, ça doit aider à le rendre sympathique le fait qu'il soit légèrement retard, là. Mais on s'entend, là.
Oh, I should have said. that.
Non, Hagrid est un peu pas vite, disons. Tu sais, je pourrais être politiquement correct. Il est pas vite, mais fait que ça le rend encore plus sympathique. Fait que t'as cette scène-là dès là que tu te rends compte que ok, ça met aussi le côté toutes les magiciens puis tout cet univers-là, les gens sont très spéciaux, très excentriques. On s'entend que... Fait que déjà, t'as le premier personnage qui est comme un peu... Oh. Puis là, il t'amène dans le monde, tu sais, quand il arrive dans Diagon Alley. Là, je trouve que c'est le bout où le film fait comme... Oh!
Le blab.
On s'en va. On sait pas où c'est qu'on s'en va, tu sais. Mais c'est merveilleux. C'est bien fait. Mais non, j'adore ça. Puis visuellement, tu sais, comment ils ont... Tu sais, tu lis ce livre-là, puis on s'entend, dans un univers éclaté, réussir à transposer ça visuellement au cinéma, je trouve que c'est quand même un tour de force, là.
Oui, vraiment pas facile. Je dirais que du côté adaptation, la seule chose qui me dérange un peu, c'est que dans le roman, on a le temps de se vautrer dans le détail, dans chacune des scènes, fait qu'à un moment donné, on a le temps d'oublier des détails, alors que dans le film, c'est une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Évidemment, on a beaucoup de terrain à couvrir. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on retrouve des éléments comme trop vite, on fait des liens trop vite. Je m'explique. Il arrive dans Diagonal Alley, il voit le Nimbus 2000.
Ah ouais, ouais, ouais.
Puis là, 15 minutes plus tard, il reçoit comme par magie le Nimbus 2000. Ben, comme par magie. Et puis là, il y a le match de Quidditch, tout ça, mais après ça, il y a chacun des événements de son année scolaire. Puis à la fin de l'année scolaire, il rentre dans la pièce et comme par magie, c'est le même enchaînement que dans le film. Tu sais, les obstacles pour en arriver au Philosopher's Stone. C'est tous les obstacles qu'il y a eu dans l'année. T'sais. Mais quand tu lis le roman, tu as le temps de les oublier, les obstacles. Fait que là, quand tu arrives, c'est comme vrai. C'est comme, ah ben oui, s'il a vécu ça, ça va l'aider dans ta situation. Mais finalement, dans le film, c'est que ça arrive un peu vite.
Que le cinéma, c'est un média qui est très rapide, on s'entend. Je veux dire, un film, 2h30, on dit c'est un film long, mais tu sais, le livre, il va te prendre plus que 2h30 à lire. Là,
ah, ça va prendre, ouais.
Puis tu sais, je veux dire, c'est très rare qu'on s'assoie pour lire un livre, puis qu'on le part à la première page, puis qu'on se rend jusqu'à la dernière page sans arrêter. Ouais. Fait que des fois, t'as l'espace de, ah, tu sais, t'as 2-3 jours sans lire. Des fois, ça peut être plus long parce que t'as pas le temps. Pendant une semaine, tu touches pas à ton livre. Fait que ces choses-là ont le temps de disparaître un peu de ta tête. Puis t'es surpris quand t'arrives. Là, c'est clair que la manière que le film est pacé, parce que le film il roule à 100 000 à l'heure. Là. C'est 2h30 de.
Non-stop.
C'est très rare qu'il y ait des scènes plus. Où il se passe pas grand chose. Des scènes qui. Tu sais, des fois, dans les films, il y a des scènes qui servent pas nécessairement à faire avancer l'histoire, mais
juste
qui servent.
Juste un peu. Là.
Ouais, ou ouais, juste à donner un peu de profondeur au personnage. Non, non, il y a rien de ça, là, on s'entend. C'est vraiment. Tout ce qu'on voit pendant 2h30 fait avancer l'histoire. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les personnages n'ont pas de profondeur parce que c'est amené en même temps.
Oui.
Ça sert à bâtir. Tu sais, dans Harry Potter, ça, c'est tous les romans, c'est comme ça. On s'entend que l'histoire, c'est ça qui construit les personnages. Tu sais, c'est leur. La manière qu'ils gèrent, qu'ils réagissent face à la situation, ce qui se passe, qui te permet de comprendre les personnages. Fait que le film fait la même chose, ça va. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est un film qui va assez vite. Ceci étant dit, ça fait que ça passe vite aussi. Tu comprends?
Oui, c'est pas deux heures qui est long, qui est lent. Ça passe vraiment vite. Puis, comme tu le disais tantôt, du point de vue... en fait, on va en parler dans quelques instants, mais tu sais, visuellement, il y a quelque chose de magique. Comme on découvre en même temps que Harry, ça fait en sorte qu'aussi on a envie de savoir mais c'est quoi ce détail-là? C'est quoi ce détail-là? C'est quoi ce détail-là? Ça nous donne envie. Ça nous fait saliver sur l'histoire. Et puis, la musique, évidemment, qui est assez incroyable. Fait que, tu sais, c'est comme très touffu, mais comme on pourrait se sentir noyé sous les détails, mais comme on les découvre au fur et à mesure qu'on avance, ça va bien. Tu sais, c'est comme manger une chip, puis t'as envie d'en manger un autre, puis un autre, puis un autre, puis finalement, tu t'as rendu compte que t'as passé à travers ça.
Harry Potter est comme des chips. Si t'en prends trop, ça fait engraisser. Mais... Moi, je suggère qu'on jump tout dans les personnages. Là. Parce que,
allons-y.
En gros, tu sais, ça ne tente pas de m'éterniser sur le scénario. On le connaît tout. Là. C'est un film qui est très connu. Ce qui arrive dans ce film-là, c'est qu'il y a un vraiment shitload de personnages. Tellement là, que si tu regardes les show notes, ça ne rentre pas tout. Il faut que Il faut que tu regardes. Il faut que tu défiles. Parce que il y en a trop. On va commencer avec Daniel Radcliffe. Parce qu'il fait le rôle de Harry Potter. Il est pas bon.
C'est pas great, hein?
C'est simple de même.
C'est drôle, hein?
Poche de la gang.
Je trouve que les trois acteurs principaux ils se sont améliorés avec le temps. Mais dans le premier film, les trois acteurs principaux, là, moi je vais tous les mettre dans le même panier, là, sont vraiment pas très bons. C'est vraiment trop gros. Puis il y a beaucoup des enfants, des rôles secondaires qui sont excellents.
Ouais, écoute, mais. Je suis semi d'accord avec ce que tu dis sur les trois principaux. Parce que je trouve que. Emma Watson, qui fait Hermione, déjà, je trouve que clairement elle est meilleure que les autres. Ah,
je suis tellement pas d'accord.
Ah ouais, non, moi je trouve que déjà elle a quelque chose de supérieur aux autres. C'est vrai que c'est quand même gros. On s'entend, là. C'est des enfants, là. Ils sont jeunes. C'est des personnages très, très, très... tu sais, ils sont très... Ils ont un archétype... Ils ont un type très clair. Fait que je pense que c'est assez difficile quand même pour des enfants de cet âge-là de faire ça. Sans le faire trop. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a plus impressionné dans Emma Watson, c'est pas dans sa manière de livrer ses lignes. Parce que c'est vrai que dans la manière de livrer ses lignes, des fois, c'est un peu...
Okay. C'est ça, c'est trop gros.
C'est plus physiquement. Des trois, c'est celle qui a la plus... Que son personnage a une attitude physique aussi qui la représente. Tu comprends? Elle a des manières de regarder les choses, de se placer. Ron en a aussi, tu sais. Mm-hmm. Rick Grint, il en fait... Harry, il en a pas. Tu comprends? Je veux dire, il n'y a pas de physiquement, il acte pas. Son regard, il n'y a pas de regard. Emma Watson, c'est la seule qui fait que ça, qui a un regard, qui a tout. Fait que c'est pour ça que je dis déjà, tu vois qu'il y a un talent d'actrice supérieur.
Oui, ben, les trois, c'est. Ben, évidemment, Daniel Radcliffe a fait d'autres films. Mais, Emma Watson, c'est celle qu'on a vraiment vue le plus, je crois.
Oui, oh, puis c'est ça.
Par la suite. Mais elle a vraiment un talent. Mais c'est juste que je trouve que les trois, je les trouve vraiment trop gros. Puis, étant donné qu'on est en train de mélanger les trois ensemble, là, Rupert Grint, c'est vraiment l'extrême du gros, là.
Ben, moi, ça me dérange pas, moi.
Ah, moi, ça me bug. Ah, j'aime pas ça.
Je sais pas, moi, ça, je trouve que ça fit.
Mais je trouve que ça fait le clown. Non, non.
Ben, c'est ça. C'est Ron, tu sais. Ron, il est... C'est ça, c'est un peu, il est un peu clown, il est un peu, tu sais, il est un peu niaiseux, lui aussi. C'est pas
ouais, le... Il me semble que c'est plus le petit gars qui est opprimé sous le poids de toute cette immense famille-là, puis qui a de la misère à se faire de la place.
Ouais, parce qu'il sait pas trop qu'est-ce qu'il est. Je veux dire, il y a pas de... Il n'y a comme pas d'attitude claire. C'est clairement pas.
Il n'y a pas de branding.
C'est clairement pas le couteau le plus aiguisé du.
D'Achède.
C'est clairement pas genre, tu sais. C'est clairement pas un. C'est pas un nerd, c'est pas un sportif. C'est pas. Finalement, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un ami incroyable. C'est une personne qui est. C'est un grand cœur. Ce gars-là.
Il
va être fidèle, il va être là, il va toujours être. Peu importe. Là. Il est pas capable de le faire, il va essayer de le faire pour aider ses amis. Il va se mettre en danger pour aider. T'sais. Fait que, tu sais, il finit par le trouver au fur et à mesure des livres. Là,
puis d'ailleurs, on parlait du branding. Là. Moi, j'aimerais avoir ton opinion sur un truc. Tu trouves pas que Harry Potter. Comment je pourrais dire ça?
Tu parles du dude, du personnage.
Du personnage.
Ok.
Tu trouves pas que son seul avantage sur le lot,
c'est de s'appeler Harry Potter?
C'est que sa mère l'a aimé ben gros.
Exactement, ouais. C'est ça, c'est tout.
C'est tout. Fait que ça veut dire que Rosemary, là, man, s'il était dans le monde d'Harry Potter, est-ce qu'elle tuerait tout le monde?
Non,
man,
mais
elle serait tellement hot!
Non, t'as mal compris. Il faudrait que toi, tu sois mort. Et Nancy. Ouais. Il faudrait qu'il y ait un magicien méchant qui vous ait buté. Il a essayé de la buter, puis ça n'a pas fonctionné parce que sa mère l'aimait tellement. Puis là, elle aurait une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Là, ça serait correct. Tu vois, c'est quand même plus complexe. Là.
Mon point étant que là, on revient un peu sur le scénario, mais c'est pour en parler, pour revenir sur les acteurs. À la fin du film, donc, il y a cette espèce de match d'échec, grandeur nature, de sorcier, ça détruit les statues, tout ça. Puis, Ron, il est comme dans un élan de courage, il se sacrifie. Puis là, il dit à Harry Potter, non, mais c'est pas moi, puis c'est pas Hermione qui doit franchir la porte, c'est toi, parce que c'est toi le meilleur, mais... Non, son seul avantage, c'est d'avoir été aimé par ses parents. Vraiment, clairement, la mieux placée pour passer cette porte-là, c'est Hermione.
Oui, c'est celle qui sait ce qu'il fait, en fait. Non, mais tu vois, t'as Harry, c'est parce que c'est un talent, tu sais, c'est comme un talent naturel, hein. On en connaît tous des de même, là, qu'il y a rien à faire, ça marche. Puis la scène qui le montre mieux, c'est quand ils ont leur cours de je veux dire, cours de ballet, là. C'est pas cours de ballet, là. C'est pas comme vous, on danse, là. Leur cours de, on vole, c'est un ballet, là. C'est le seul, c'est lui, dès qu'il dit hop, là, paf, il a le ballet dans les mains. Tu sais, il n'y a pas besoin de rendre les affaires, c'est un peu inné, là, c'est un talent. Hermione, elle étudie, puis elle travaille, puis elle bright, puis elle finit par le faire, tu sais.
Ouais, mais c'est ce qui fait en sorte que Harry, lui, il fait rien dans le film, là.
Non, mais il fait rien dans l'histoire aussi, dans les livres.
Tous les romans, là. C'est... Mais donc, tout ça pour, justement, m'en revenir à mon point, que Harry Potter, c'est le héros de rien, là, je vous ai dit.
Ouais, ouais. Ouais.
Bref, c'est puis, un autre commentaire éditorial.
Puis ce que j'aimais aussi, ce que j'aime sur le trio, c'est que justement, tu en reviens, t'as Hermione qui est brain, tu sais. T'as Harry qui est hyper populaire parce que c'est Harry Potter, tu sais. Tout le monde le connaît. Qui est super talentueux, là. Et t'as Ron. Fait que c'est ce que j'aime, ça aide à créer cette espèce de dynamique-là où Ron, tu dis qu'il est comme pogné sous ses frères, mais dans son trio, dans ses amis, il est pogné aussi, il est comme...
Entre tous ses amis, ouais.
L'autre qui est genre Einstein, puis l'autre qui est Sidney Crosby, puis il y a lui.
Belle analogie, man.
Lui, c'est exactement qui est roux. Ça. En plus, il est roux! Tu sais, tu pars déjà dans... On salue tous les roux.
Quand t'as rien pour toi, là. Quand t'es le dernier d'une famille de roux, là. Okay, on vient de perdre une couple de roues.
Fait qu'on va parler de Robbie Coltrane qui fait Rubeus Hagrid. Non, mais tu sais, on le voudrait tous comme ami, là.
Ah non, mais il est hot.
Quoi?
Ah, il est hot. Il est vraiment bon, je trouve.
Il est toujours sympathique. Peu importe quel personnage il fait, là. Il y a toujours un côté que tu voudrais le connaître, là.
Puis ça, c'est vrai dans Harry Potter, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres choses qu'il a faites, entre autres James Bond, où ce qu'il fait un espèce de parrain de la mafia russe, mais finalement, t'as juste envie de faire la partie avec, prendre une bière, chiller, tu sais. Mais il y a vraiment un quelque chose, je trouve, de cet acteur-là, de quand il parle, quand il... Justement, l'espèce de phrase qui revient une couple de fois de « I shouldn't have this.
Oui, on. I shouldn't have said that. »
Merci.
Ça va, je te traduis.
J'ai pas pris un café. Bref, on y croit, là, tu sais, qu'il est juste... Ah, merde, j'ai trop parlé. Là, il continue, puis... Ah, merde, j'ai trop parlé. Il y a vraiment quelque chose d'attachant, mais c'est ça, Hagrid, aussi, c'est ce personnage-là. Fait que moi, je trouve que ça fonctionne à fond la caisse. Allô?
Ouais, ça va. Ah, j'attendais à ce que tu dises autre chose. J'étais comme... Ça a arrêté, là. Excuse-moi.
Bon, ben, t'avais... l'autre chose que je veux dire, c'est Albus Dumbledore.
Non, mais j'allais parler justement d'Hagrid. Ce que j'aime aussi, c'est... Tu le sens qu'il n'y a pas... Tu sais, il peut pas avoir une once de méchanceté.
Oui,
dans,
oui.
Dans ce personnage-là, il y a une pureté... Il y a... C'est un enfant. C'est ça qui est drôle. C'est comme un cœur d'enfant dans un corps de géant, là.
Oui, vraiment.
C'est vraiment superbe. Puis il nous le livre à 100 000 à l'heure. Instantanément, dès que tu le vois, t'es attaché. Tu sais, quand il arrive au début avec sa moto, là?
Oui.
Tout de suite, t'es comme... On l'aime, là.
Puis, il y a aussi une espèce d'attitude de foi en les autres.
Ouais.
Qui fait en sorte que lui s'attache aux autres, mais toi, tu t'es attaché à lui, fait que tu as envie de t'attacher aux autres aussi. T'sais. Cette espèce de comment je pourrais dire ça, d'honneur qu'il a à servir Albus Dumbledore. T'sais. Fait que là, ça rajoute au personnage d'Albus Dumbledore parce que tu aimes Hagrid. T'sais. Fait que ça me remet une couple de choses en perspective. Je trouve ça vraiment bien conçu comme personnage et bien acté comme acteur.
Parce que c'est lui, en fond, qui nous fait... Parce que, tu sais, Dumbledore, on le voit un peu. On sait pas qu'est-ce qu'il fait vraiment. C'est lui qui nous fait... T'as raison, là. C'est celui qui nous fait quand... Oh, Dumbledore, t'sais. C'est Hagrid, là. Parce que la façon qu'il en parle, c'est vrai, j'avais pas vu ça. On va continuer avec Richard Harris, donc qui fait Albus Dumbledore.
Fury Richard Harris, d'ailleurs.
Ouais, écoute, je vais te poser une question tout de suite. Là. Je vais te mettre
on the spot, là, ouais. Sous les feux de la
rampe. C'est lequel ton Dumbledore préféré?
c'est Richard Harris.
Ouais, hein?
Ouais. C'est... Parce qu'il fait plus vieux sorcier. L'autre qui était Alec.
Ouais, écoute, je m'en souviens plus de son nom. L'autre.
Mais bref, c'est qu'ils ont essayé comme de le rajeunir. Ben, je comprends qu'ils ont essayé de faire quelque chose de différent, puis c'est correct comme ça. Là, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Là. C'est parfait. C'est parfait. Mais c'est juste que dans le vêtement, dans le concept, je trouve que le Albus Dumbledore du premier Harry Potter est vraiment plus Merlin, tu sais, il est plus sage, le chapeau pointu, la grosse barbe, l'immense robe, tu sais, il est plus imposant. L'autre est un peu plus mince, il a une petite robe, une blanche avec une barbe plus courte, je sais pas. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Moi, ce que j'aime de ce Dumbledore-là, c'est tu sens qu'il y a une puissance énorme, tu sens qu'il y a quelque chose derrière, mais ce qu'on voit, c'est une douceur, une espèce de un calme, un... Mais, tu sais, je veux dire, quand il dit à tout le monde de se fermer à elle, là...
Ah non, tout le monde, ouais, c'est assez rapide.
C'est Michael Gambon, c'est ça que François dit l'autre, Michael Gambon.
Michael Jambon.
C'est ça, tu sais, c'est qu'il y a cette puissance-là derrière, mais il n'y a pas besoin de la montrer. Il n'y a pas besoin de le, tu sais, ce qui montre, puis ce qui, ça, tu sais, ce que sa vraie grande force, c'est sa douceur. Tu sais.
Puis ça, je pense que c'est bien représenté, parce que c'est très vrai ce que tu dis. C'est bien représenté à la fin quand Harry se réveille dans l'infirmerie et puis qu'on voit Albus Dumbledore qui essaye les dragées.
Ouais.
Puis il y a comme une espèce de flash dans l'œil de, tu sais, ah oui, c'était ça quand j'étais jeune, tu sais. Puis là, mais c'est comme si ça faisait longtemps qu'il avait été jeune, tu sais. Ah non, c'est savoureux.
C'est très, ouais. très bon.
C'est très bien rendu par Richard Harris, d'ailleurs.
Après ça, il y a Ian Hart qui fait le professeur Quirrell.
Quirrell.
Écoute, il est bon. Il est bon parce que la fin, quand il y a la transformation, là, quand il redevient, quand il est normal, il change complètement physiquement. Tu sais, parce qu'il est très comme ça. Là, tout à coup, là, tu vois qu'il est comme, il a les yeux méchants, puis il y a un côté, tu sais.
Ah oui, non, t'as tout à fait raison. Puis je trouve que, justement, comment je pourrais dire ça? Quand c'est celui qu'on ne nommera pas, qui est en train de parler à Harry Potter, donc lui, il est de dos, mais il y a quand même des mouvements de tête inversés.
Ouais.
C'est vraiment bon, puis c'est vraiment bien rendu, puis on y croit au bout là, que c'est la tête en arrière de la tête qui parle.
Ouais, c'est lui aussi qui fait la voix de Voldemort.
Ah!
C'est lui qui fait la voix de Voldemort en même temps, fait que ça a pris une couple de films avant que ça soit... Ben, c'est parce qu'après ça, il me semble qu'on voit pas Voldemort pendant un bout, moi.
Un bon bout de temps, oui.
Je pense que les deux autres films, on le voit pas. Puis c'est dans Goblet of Fire que...
Ouais.
Chose, ah, comment il s'appelle? Tu sais, l'acteur qui est bon, là, qui joue Voldemort. J'oublie son nom. Mais non, c'est super ce qu'il fait, je trouve. Même, parce qu'on le voit pas énormément, même si c'est un personnage très central à l'histoire. Là. On le voit par petits spots, mais à chaque fois qu'on le voit, c'est crédible. Ralph Fiennes, c'est ça l'autre, qui fait Voldemort. Ralph Fiennes. Ouais, non, moi j'ai bien aimé Ian Hart.
Oui. Performance très solide. Maintenant, il faut parler d'un de mes acteurs préférés. Un autre qui nous a laissé.
Ouais.
Alan Rickman.
Hans Gruber, non.
Ou encore le shérif de Nottingham.
Ouais. Non, moi, ça restera toujours Hans Gruber.
Ah, moi, ça va être le shérif de Nottingham. Tu sais que... Robin Hood, The Prince of Thieves, là,
ouais.
Je l'ai vu, je l'avais calculé avec ma mère. Je l'ai vu, je pense, quelque chose comme 115 fois au cinéma.
115 fois?
Au cinéma.
Au cinéma. Attends, explique-moi, là. Attends, wow. Pause. Je pense que tu devrais t'expliquer à tout le monde là, en ce moment.
Ben, premièrement, évidemment, c'est un film que ma mère et moi, on adorait, là. Moi, j'étais bien dans le... j'étais ado, là. Début de l'adolescence, même. Je commençais à jouer à Donjons Dragons. J'avais 11, 12 ans, une affaire de même, t'sais. Puis, j'étais bien dans le tir à l'arc, là. Puis, avec ma mère, on avait pris des cours de tir à l'arc. Puis, en tout cas, on capotait. Puis, c'était un bon film, là, Robin des Bois, Prince of Thieves. Puis, c'est à l'époque où le cinéma du quartier latin n'existait pas ou commençait à exister, t'sais. En fait, c'est vraiment dans la première année. Avant, c'était le cinéma Berry.
Ouais.
Qui était à côté de l'UQAM. Et puis, donc, ils ont fermé le cinéma Berry pour ouvrir le cinéma du quartier latin. Quelques mois plus tard, ils ont rouvert le cinéma Berry et ils passaient des anciens films à quelque chose comme une pièce et demie, deux pièces. Fait qu'à chaque fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va aller écouter Romain Desbois, Prince of Thieves. Puis comme ça, pendant genre des années, là, ça a été à l'affiche là-bas pendant très, très, très longtemps, là.
Shit.
C'était comme notre sortie de fin de semaine. On allait en ville, on achetait, je sais pas, des souliers pour la rentrée scolaire, puis oh, on va aller passer un petit 2 heures au cinéma. Parce qu'en plus, l'été, il fait chaud, la climatisée au cinéma. C'était cool. C'était vraiment le fun.
Ça fait 17 ans qu'on se connaît. J'en apprends encore. Ça explique des choses. Non, non, mais ok, fait que on revient.
Mais tu joues probablement à Donjons Dragons aujourd'hui à cause de Robin des Bois, Prince of Thieves.
Ah, oh, ben, t'as ben, what? Hein?
Critique-moi pas trop.
Merci, Kevin Costner. Alan Rickman, donc, qui fait Severus Snape. Man, il est tellement bon. Là.
Ah non, mais c'est hallucinant.
C'est. Écoute. Je vous vole la punch sur un des extraits qu'on va écouter tantôt. Là. C'est lui qui dit Mr. Potter. T'sais. À chaque fois qu'il dit Mr. Potter, là, t'as le goût d'être en sacré une.
Mais c'est parce qu'il réussit à être drette sa ligne de tu l'haïs et une fois que t'as vu le film puis tu sais que c'est l'ami en fait de Harry Potter, ça... Puis tu sais éventuellement que le rival amoureux de son père.
Ouais.
Il est drette sa ligne de pauvre lui, puis Astique Jolaï. Il y a vraiment quelque chose dans ce personnage-là, puis Alan Rickman le rend tellement bien. Ah, c'est malade.
Alors,
c'est vraiment bon.
C'est incroyable, puis c'est. Écoute. Tu sais, quand on parlait tantôt d'adaptation, pour moi, c'est un des endroits où tu fais comme « Wow! » Le personnage est directement sorti du livre.
Ah ouais, c'est exactement ça, là.
Parce que... écoute, je sais pas s'il a lu le livre, Alan Rickman, ou c'est juste... c'est juste parce qu'il est bon. Parce qu'on s'entend que c'est pas... Ça arrive pas tout le temps, hein, que les acteurs qui jouent un personnage qui vient d'un livre... Elle lu le livre. Je veux dire, quand Ian McKellen a eu le rôle du Seigneur des Anneaux, je pense qu'il l'avait jamais lu. Mais après ça, il l'a lu. Puis, parenthèse, là, Ian McKellen, il avait tout le temps dans sa poche les livres. Puis, il relisait les bouts des fois avant de faire certaines scènes. Mais bref, je sais pas s'il l'a lu, mais c'est pris carrément, c'est enlevé. Ce qui fait que quand t'arrives, puis tu suis tous les films, puis t'arrives au dernier film, puis que spoiler, il meurt, puis que finalement, on t'explique après tout ce temps-là qu'est-ce qu'il faisait, puis comment, en bout de ligne, là, il était, tu sais, son seul but dans la vie, là, c'était de protéger Harry. Là. Il vivait pour ça. Là. Mm. Et la manière qu'Alan Rickman te le rend puis que t'amène là, c'est quand t'arrives à cet aboutissement-là, tu t'es complètement...
Ah, mais c'est quand même fantastique, parce qu'on se rappelle qu'au moment de tourner le film... Les derniers romans n'étaient pas sortis encore. Là, c'est sorti comme 10 ans plus tard. Là.
Ah. Puis, c'est ça. Déjà, tu sais, quand tu as le contexte, après, tu le vois dans le premier film, déjà ce côté-là. Hey, non, il le protège. Là. Puis là, il s'assure. Il est... Ah, c'est incroyable. Mais Alan Rickman, c'est dans la voix, c'est dans le physique, dans les manières. T'sais, il est très maniéré, Snape. La façon qu'il se tourne, qu'il regarde, c'est incroyable. Il incarne ce personnage-là. C'est ça, comme tu disais, regretter. À chaque fois que je regarde un film avec Alan Rickman, j'ai un pincement au cœur.
Ah ouais, ça fait
un autre
ça fait
qui
mal,
est parti trop tôt, puis ah, c'est un grand acteur. Là.
Ah ouais, vraiment.
On va continuer avec des grands acteurs.
Ben, c'est ça. Là,
Maggie Smith qui fait Minerva McGonagall. Wow! Oh.
Maggie.
Oh, on a un petit lag. T'es-tu en train d'enlever de la porn?
Oui. Non, je te confirme que non. Maggie Smith, donc. Oh my God! Quelle actrice solide!
Elle est tellement bonne.
Puis on s'entend, là, elle est pas jeune, la madame, là.
Je sais pas de quel âge maintenant, mais écoute, moi, ce que j'aime le plus de Sam McGonagall, c'est. Tu sais, elle est quand même. C'est pas une prof. Comment on pourrait dire. C'est une prof que tu vois qui aime beaucoup ses élèves. Ses élèves l'aiment beaucoup. Mais elle est sévère, là.
Oui.
Elle est
très
exigeante avec eux, là.
Écoute, la madame a 82. Ça fait 16 ans de ça. Elle avait quand même 66. Mais elle a de l'air sèche. Mais en même temps, on voit qu'elle a un petit éclair de candeur, de taquine.
Ah ben la scène où elle voit Harry attraper l'espèce de boule. Là,
le Reminder Hall.
Ouais. Elle est toute excitée parce qu'elle est comme, man, j'ai trouvé un seeker pour l'équipe de Quidditch.
T'es sûr qu'il va passer un sale quart d'heure? Oh, ouais. Non!
Non, elle est comme, yes! Mais non, elle est super. La scène où il arrive en retard, là, en classe, ouais. Quelle belle scène.
Ouais, vraiment.
Puis tu sais, c'est elle qui est comme la. Parce qu'il y a un prof pour chaque. Qui est comme le chef de chaque.
Maison.
Man, elle a pas de problème à pénaliser sa propre maison. Ah, tu sais, absolument.
Non, mais elle est run, là.
Ah ouais. Man, elle la enlève 150 points quand même, là.
Oui.
Fait que, quelle actrice, là. Puis quand tu y penses, les trois jeunes, là, on dit, se sont améliorés au fur et à mesure, là, dans tous les films. Mais man, regarde avec qui ils ont travaillé.
Non, il y avait de quoi. Il y avait du matériel à duquel s'inspirer.
Tu peux-tu nommer, là, globalement, là, dans tous les films d'Harry Potter, un acteur ou une actrice que tu fais comme ah, lui, t'es pas bon.
Rupert Grint?
Non, mais tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, non, mais surtout de ces grands acteurs-là, Alan Rickman, puis les deux acteurs qui ont fait Albus Dumbledore.
Tout ça qui s'ajoute. T'sais, parce qu'il y a des personnages qui reviennent et qui repartent. C'est tout le temps des acteurs, des grands acteurs. Là. On va continuer avec Fiona Shaw. Ça, c'est quand même un des films où on voit le plus. Je voulais parler des Dursley. C'est un des films où on les voit beaucoup. Fiona Shaw qui fait Aunt Petunia. Man.
Ah non, mais t'as vraiment envie de la frapper. Là. Surtout dans l'espèce de petit phare sur le rocher perdu quand Hagrid arrive, justement. Là. Puis que là, elle regarde Harry, là, puis elle dit « T'étais le petit-fils de ma soeur préférée, la petite chouchou de la famille. Ah. » Tu vois qu'elle haïssait sa soeur. Fait que là, quand elle s'est retrouvée avec le petit de sa soeur qu'elle doit garder, ça, c'est venu la chercher. Fait que tu comprends, mais t'as quand même envie de la frapper, mais...
Mais pas trop. Non, elle est taillissable. L'oncle Harry Melling qui fait Dudley. C'est pas l'oncle, excusez, c'est le cousin Harry Melling qui fait Dudley Dursley. Quel enfant gâté, absolument désagréable. Puis il fait bien ça, le jeune.
Oui. Peut-être oui, il est excellent.
Il est peut-être de même dans la vie.
Je sais pas, mais j'ai vu cette semaine une scène. Tu sais, des scènes qui n'ont pas. Qui ont été tournées, mais qui n'ont pas réussi à se rendre à la version finale des films. Et entre autres, dans le dernier film d'Harry Potter, à un moment donné, il y a une scène qui avait été tournée où Dudley s'excuse auprès d'Harry d'avoir été aussi méchant avec lui. Puis il est comme tout gentil, tout doux. C'est juste avant que les Dursley s'exilent, en fait, là, pour pas. Pour pour recevoir le lyre de Voldemort. Hein? Bref, c'est vraiment une belle scène. Mais encore là, c'est un petit acteur vraiment jeune qui acte un peu gros dans le premier, mais c'est vraiment pas le pire, je trouve, des enfants.
Il acte un peu gros. Excuse-moi. C'est pas de sa faute, hein? Il fait de même. Mais... après ça, t'as Richard Griffiths qui fait Uncle Vernon. Lui, là. Lui.
Ah, c'est ce qui est bon.
Lui, tu l'aies.
Man. Ah, il est bon. Il est bon. Man. Il est bon.
Ah, il est bon, c'était écœurant. Puis dans tout ce que je l'ai vu, à chaque fois, je l'adore, là. Il est pire que la tante, je pense. Parce qu'il.
Ah, ouais.
La tante est désagréable, elle est hautaine, tu sais, c'est comme. Elle voit Harry comme une espèce de parasite, là. Lui, il est méchant.
Ouais, 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 vraiment.
Lui, il est juste une mauvaise personne. C'est
comme. Fait que, ouais. Non, c'est vraiment ça. On aime l'air.
Ah, on adore l'air. c'est fou, là.
Et donc, Richard Griffiths réussit très bien son mandat.
On va parler de la personne pour qui on a choisi ce film-là. Là. Qui est là pas longtemps, mais wow. John Hurt qui fait Mr. Ollivander. La scène.
Les yeux. Ouais. Là, il y a des paires de contact en plus, là, mais... Intense.
Ah, c'est débile.
Il est comme décalé en même temps de la réalité. De la réalité magique. En tout cas, bref. Parce que déjà, l'univers magique est décalé par rapport au réel, mais lui, il est décalé par rapport à l'univers magique. Il est comme dans son monde, là, puis il se parle. Puis il pense à haute voix. Mais peut-être que c'est peut-être là. Il y a vraiment quelque chose, ben, là, tu trouves pas?
Ouais, mais tu sais, quand il dit qu'il se souvient de toutes les baguettes qu'il a vendues, ben, t'as l'impression qu'il est là. Qui est en même temps dans tout ce qu'il a vendu, et en même temps, il y a une partie de lui qui est dans le passé, puis une partie de lui qui est là. Mmh. Puis c'est comme s'il vivait tout en même temps. Mmh. Ce qui est un peu étrange, puis John Hurt, il nous fait parce que c'est ça, il regarde à quelque part, mais à nulle part en même temps. Il y a sa voix. La manière que sa voix puis on va. Tantôt, j'ai pris un petit extrait juste pour qu'on entende ça, là. Comment sa voix change. Puis c'est pas. C'est un acteur exceptionnel.
Ah ouais, c'est vraiment du très bon John Hurt. C'est dommage qu'on le voit pas assez longtemps. On est juste heureux qu'il soit là.
Ah, mais tu sais, on le voit plus tard et plus important. Plus ça...
Oui, évidemment.
Genre, surtout dans le dernier. Mais c'est ça aussi, la ce qui est spécial de ce film-là. C'est que t'as des acteurs comme ça, des monuments, là, qui font un petit rôle, qui apparaissent 3 minutes dans un film.
Mais c'est magnifique. Ça fait des petits caméos là, absolument grandioses.
C'est ça, il n'y a pas de... On dirait que c'est comme s'il n'y a pas de petit rôle dans cette histoire-là.
Oui.
Tous les rôles sont joués par des gens qui sont des... qui sont capables de tenir un film à eux-mêmes.
Mm-hmm. Absolument. Absolument.
C'est exceptionnel. Puis s'il y a ça qui est Harry Potter, qui pour moi est une des choses importantes quand même dans le cinéma, c'est ça. C'est qu'il y a une façon de faire des films où t'es pas obligé d'avoir des mauvais acteurs dedans. Puis c'est très, très anglais, là, aussi, on s'entend. Là. Puis ça nous démontre aussi à quel point les Anglais ont des bons acteurs.
Ah oh, oui, quand même. C'est assez solide.
Je voulais terminer avec un des enfants. J'ai pas mis... Le seul autre enfant que j'ai mis dans le fond, c'est Tom Felton, là, qui fait Draco Malfoy. Parce que c'est quand même le début. Il y a une histoire très... C'est un personnage très important dans le fil de Harry Potter. Comment t'as trouvé la performance de Tom Felton, toi?
Très honnête.
Ouais.
Je trouve que c'est un de ceux qui acte pas gros, mais en fait, il devrait le faire. C'est-à-dire comment? Je pourrais dire ça. Drago Malfoy, il se la pète.
Ouais.
Donc, il faut que son être soit gros. Ce qui fait en sorte que si le jeune acteur joue un peu gros, il va être drette dessus, je trouve.
Ouais.
Puis ça le rend bien. Parce qu'en même temps, Drago, quand ils s'en vont dans la forêt, puis que là, tu sais, lui, il vient de stouler les trois autres, puis il se fait punir avec les trois autres, puis là, il est comme, que ouais, est-ce que j'ai bien entendu? Fait que là, là, il y a comme la barrière qui tombe, puis là, c'est juste à point. Là. Non, c'est une belle performance, je trouve.
Ah non, c'est bon. Il y a l'essence de ce que Malfoy est. Ça passe beaucoup par sa voix, sa manière de parler. Il y a un côté hautain. Lui, je veux dire, il doit être respecté, puis il est hot juste parce que c'est un Malfoy. Puis j'adore ça, ce petit côté-là. Puis c'est drôle parce que avec Harry Potter, on s'entend qu'il y a beaucoup de liens avec la société anglaise. C'est comme une manière d'illustrer certaines choses de la société anglaise qui se passe à tous les jours. Et t'as une certaine aristocratie ancienne de famille.
Ah oui.
Puis il représente ça, tu sais. Puis je trouve ça cool. C'est bien fait. Il fait bien ça. Pour vrai, c'est probablement dans le premier film un des meilleurs kids.
Moi, j'aimerais juste rajouter un dernier acteur avant qu'on passe à autre chose.
Vas-y.
Warwick Davis.
Ah oui, il fait le Head Goblin. Je sais pas comment
ouais,
il s'appelle.
Ouais, c'est ça. Le Head Banker.
Il fait, voyons, le professeur Flitwick.
Hufflepuff. Flitwick.
C'est celui qui est le prof de Enchantement, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ou Lévitation, en tout cas, celui qui fait
Lévitation. Guardian Leviosa.
En tout cas, bref, voilà. C'est Warwick Davis en dessous de 8 pouces de make-up.
Oh, mais tu y reconnais la face, pareil. C'est ça qui est hot.
C'est ça qui est hallucinant.
Il y a la face, tu sais.
Ben, ça nous amène un peu au décor puis au costume, tu sais, qui sont grandioses.
Ah ouais, c'est hallucinant. C'est incroyable. Il y a des scènes dans ce film-là qui sont purement visuelles et qui sont parmi les meilleurs du film. T'sais. Puis bon, c'est sûr que ça reste des choses probablement qui ont été faites à l'ordinateur, là. Mais tu sais, quand je parle des décors et costumes, j'inclus quand même les décors
CGI.
Tu sais, comme l'arrivée au château, là.
Ah non, mais
par
écoute,
les bateaux.
C'est magnifique. C'est vraiment enchanteur.
Ah, toute la salle. Comment s'appelle cette salle-là? Ben, en tout cas, la salle où ils mangent, là. C'est-tu Common Room ou Call the Hall? En tout cas, je sais plus. C'est incroyable. C'est magnifique, là. Je veux dire, les tables remplies de bouffe, là.
Ah non, c'est absolument magique. En fait, moi, ça me rappelait beaucoup Hook.
Ouais, mais c'est drôle parce que j'ai écouté Hook hier avec mon gars. Tu sais, la scène avec la table remplie de bouffe, là.
Ben, c'est ça. Ça ressemble vraiment à ça. Ça nous ramène encore une fois dans un univers fantastique où est-ce que la bouffe a fait juste apparaître. Puis en plus, c'est drôle parce que juste devant Harry Potter, à un moment donné, il y a un repos où est-ce que la bouffe apparaît. Puis le méga gros plat qu'il y a en avant d'Harry, c'est du maïs. Tu sais.
Ouais.
Nancy, elle capote sur le maïs. Fait que là, je dis, hey, Nancy, c'est pour toi cette table-là.
Ah, mais c'est incroyable. Tu sais, là, on voit l'image du jeu d'échecs. Là.
Oui. Ah oui, ah, c'est magnifique.
C'est incroyable. Tout le château, toute la patente, chaque local, chaque salle de classe.
Oui.
Tu sais, la salle de Snape qui est comme, tu vois qu'elle doit être dans le sous-sol un peu. Puis là, ouais. C'est vraiment, visuellement, c'est magnifique ce film-là.
Ah, oui, c'est...
Cependant, les effets spéciaux, tout ce qui a rapport à ce qu'ils volent,
moins.
Ça a vraiment
c'est au début des années 2000, hein.
Mais pourtant, il y a des trucs qu'on a regardés qui sont plus vieux.
Qui ont mieux vieilli.
Ouais.
Mais c'est peut-être juste parce qu'ils en ont trop utilisé du CGI, tu sais. Clairement, à un moment donné, Harry, ça devient un CGI, puis ils le font revoler d'un bord de l'autre.
Ouais.
Mais comme on le disait tantôt, le petit acteur, il fait pas grand-chose, tu sais, dans sa manière d'être, tu sais. Il est juste comme statique un peu. Fait que là, quand le CGI, il se met à trop bouger, le lien se fait mal, tu sais.
On dirait une poupée, hein.
Ouais, ouais, vraiment, vraiment.
Ouais, c'est pas super.
Enfin, voilà.
On y va!
Aujourd'hui, nous avons une question hommage à John Hurt.
Yeah.
Parce que c'est un épisode où on a programmé Harry Potter pour John Hurt. Et la question générale que j'ai pour toi, Sébastien, c'est « Connais-tu ton Vision X? »
OK. Oh, Boy! OK.
Sur un pointage, comme d'habitude, un indice, un point, machin.
C'est-tu aujourd'hui que je me fais humilier?
Dans combien d'épisodes de Vision X avons-nous parlé de John Hurt? En fait, je te demanderais même, en fait, les titres des épisodes de Vision X dont nous avons parlé de John Hurt.
Hey man, tu sais que je connais...
Je t'en donne un.
OK.
Je t'en donne un gratis. Harry Potter and the Philosopher's Stone.
OK. Là, tu sais que je connais... Je me souviens même pas de tous les épisodes de Vision X qu'on a fait.
On est rendu à 68 aujourd'hui.
Ouais. Ben, Alien, ça c'est clair. Là.
Bravo. Dans l'épisode numéro 2 de Vision X, Alien, ouais.
Indice. Voyelle.
On a parlé de John Hurt dans l'épisode d'Alien, mais donc il a repris cette scène-là ailleurs.
Ah, dans Spaceballs.
Voilà, l'épisode 18 de Vision X. Et il y a une autre réponse, Sébastien. Un autre film.
Un autre épisode,
c'est-à-dire.
On a fait un autre épisode dans lequel il y a John Hurt.
Mm-hmm, évidemment.
OK.
À noter que je viens de me reprendre. Là. Ça, c'est un autre indice gratis pour toi.
Ah, je me suis pas rendu compte. Je peux-tu savoir si c'est dans quelle année de Vision X?
C'est l'épisode numéro 23.
Ouais, je vais pas aller regarder. épisode numéro 23, man. Indice.
Je viens de me corriger. J'ai dit, ouais, un autre film où nous avons parlé de Vision. Puis là, je me suis corrigé. Parce que ce n'est pas un film.
The Day of the Doctor.
Day of the Doctor. Et oui, donc on a fait essentiellement, c'est le quatrième épisode de Vision X sur John Hurt. L'épisode 2 avec Alien, l'épisode 18 avec Spaceballs, l'épisode 23 avec Doctor Who et aujourd'hui l'épisode 68 avec Harry Potter. Ah, donc, ben... 8 sur 10, c'est pour toi, Sébastien.
Ah, c'est pas pire. Yeah! On va aller tout de suite dans les extraits. Fait chier, cette semaine, j'ai comme perdu un extrait parce que j'ai écouté, je l'ai en DVD, Harry Potter, je l'ai écouté en DVD, mais mon ordinateur a pas de lecteur DVD, fait que faut que je tout... Puis là, c'était pas le même minutage. Oh, okay. Il y a un truc que j'ai comme pas réussi à retrouver, fait qu'on a juste 7 à place de 8. Le premier, c'est, je l'ai appelé « Size doesn't matter ».
Well, some of them are quite a bit bigger than last year.
I don't care how big they are!
Mais en même temps, c'est une conversation qui pourrait tellement sur n'importe quoi, hein? J'aime ça, des affaires de même pris hors contexte, là. Que... Ça, madame, we're quite bigger than last year. Ça fait tout.
Évidemment, il parlait de Bledinde.
Ouais, c'est ça. Il parlait de son Bledinde. Mais le prochain extrait, c'est John Hurt dans toute sa gloire. Je veux qu'on écoute puis qu'on apprécie la performance vocale de John Hurt.
He who must not be named did great things. Terrible. Yes. But great.
Ouais.
Parce que ce qui est hot, c'est que tu sais pas trop. Tu sais, il dit « great things », « terrible, but great ». Il y a une ambiguïté dans cette affaire-là qui est comme...
Il est de quel bord?
Il est de quel bord, hein?
Ah non, c'est fantastique.
Oui.
Parce qu'il y a eu bien des suivants, finalement, Voldemort, tu sais, fait ils sont partis avec lui, mais le rendu, bon, étant donné que c'est le premier roman, c'est pas clair encore qu'est-ce qui s'est passé, mais... Il y en a dans la population qui ont aimé ce qu'il a fait. C'est ça que c'est en train de nous dire, cet extrait-là.
Ouais. Mais c'est dans la voix de John Hurt, là, la manière qu'il parle. Puis tu sais qu'il parle pas fort, là, mais c'est écœurant.
Puis le grain de la voix aussi, hein, ça roule en bas, là, dans le grave. Il y a vraiment quelque chose. Il y a clairement trop fumé de cigarettes dans la vie.
Ouais, ça c'est un McGonagall, là. Tu sais, tantôt, je parlais de la scène qui arrive en retard, là. Et c'est hallucinant.
Perhaps it would be more useful if I were to transfigure Mr. Potter and yourself into a pocket watch. That way one of you might be on time.
We got lost.
Then perhaps a map. I trust you don't need one to find your seats.
Hey, ça, là, c'est ta première journée d'école. Tu t'es ramassé devant tout le monde là, par le prof. Là. Ça commence bien l'année. Là. Hey, c'est quelque chose. Ouais. Pis c'est pas... Elle gueule pas, hein? Tout est... Tu sais? Un truc pour tous les profs là, qui écoutent, là. Faut jamais péter une coche, là. C'est comme ça que ça marche. Il devrait pas donner... Tu sais, il devrait faire écouter ça dans les cours de...
Pédagogie.
Ouais. Pas besoin de... Il passe trop de temps sur des affaires inutiles. Écoutez Harry Potter. Puis regardez comment les profs fonctionnent. Ouais. Alan Rickman.
Mr. Potter.
Ah, c'est tout.
C'est assouvissant. C'est ça.
Oh, mais man, qui est désagréable. Je vais la remettre, là.
Mr. Potter.
Wow. Bravo, Alan Rickman. Ouais. Prochain, c'est encore un autre que pris hors contexte. Là, que...
J'aime ça parce que t'es vraiment bon à noter les affaires. Qui... Hein? Y a-tu vraiment dit ça? Y a quoi?
Voilà, je cherche ça aussi. Ouais, écoutez ça, tu sais.
I want you to mount it and grip it tight. You don't want to be sliding off the end.
Pardon?
Ah, oh, c'est beau!
Ouais,
c'est
hein?
C'est beau, Sébastien. C'est magnifique.
Ouais, ouais.
Oh, wow!
Tu peux-tu le réécouter?
Ouais, donc.
I want you to mount it and grip it tight. You don't want to be sliding off the end.
Non, tu veux pas que ça arrive, man.
Ah, oh, c'est beau!
C'est beau, beau, beau. Ah, ouais, ça, c'est tout un motivateur, ça. Écoute ça, le speech de motivation par excellence.
I felt the same way before my first game.
What happened?
I don't really remember. I took a bludger to the head 2 minutes in. Woke up in hospital a week later.
Non, ça c'est le genre de détail qu'il n'y a pas besoin de savoir juste avant sa game. Là. Sa non, première non, game non, où non, il est bien stressé. Dis pas ça, man. Ferme ta gueule. D'ailleurs, là, man, il n'y a pas des règles de sécurité. Cette affaire-là. Man, les parents, ils envoient leurs enfants là, là-dedans. Hey, c'est comme le sport le plus dangereux au monde. Là.
Ouais, c'est pire que le rugby, tu sais.
Ah, mais en plus, tu voles sur des... T'sais, on s'entend, là. La chance que tu te fais assommer, là, tu tombes, tu meurs. C'est un peu... ouais, je comprends pas. Il doit pas avoir d'avocat dans le monde des magiciens.
Puis moi, c'est le concept de pointage de cette affaire-là que je comprends pas.
Ah, ben, moi, j'aime bien le concept du pointage, là, tu sais.
Tu pognes la petite bébite en or, ça arrête le match, puis ton équipe gagne. Mais les autres, pourquoi ils jouent?
Non, mais c'est parce que la petite bébite en or, c'est dans le fond, c'est ils la pognent pas à chaque match. T'sais.
Tu comprends? Oui, mais non, ils sont obligés de la pogner à chaque match, non, parce que c'est ça qui finit.
Non, mais il y a un certain total de points aussi. Si t'arrives à un certain nombre de points, ça t'as gagné.
Non, mais...
Tu comprends?
Ça, on apprend plus tard. Mais dans le film, il en parle pas de ça.
Non, il en parle pas, non. Mais je pense que tu lis
les autres, ils jouent, puis là, si toi, tu pognes ça, tu gagnes. Il y a une scène où est-ce que c'est ça qu'il dit. Finalement, une scène plus tard, il dit, si tu pognes le truc, tu fais 150 points. Mais bref, c'est pas clair dans le film. Fait que là, tu pognes le gugus, puis ton équipe, elle gagne. Fait que pourquoi les autres, ils jouent? Pourquoi les autres, est-ce qu'ils mettent leur vie en danger?
Ben, c'est parce que je pense que c'est 150 points pour gagner. Non, même, il me semble que c'est ça. C'est pour ça que la bébite, elle vaut 150 points, puis tu gagnes. Mais tu peux quand même les faire, les points, sans attraper la bébite. Moi, je me demande combien ça. Si t'assommes quelqu'un de l'autre équipe, ça donne combien de points? Si t'en tues un, t'as-tu genre 50 points? ça donne un multiplicateur. Pour chacun, pour chaque blessé de l'autre côté, c'est comme ça multiplie. ouais, ben on va finir par justement Dumbledore. Je l'adore. Tu sais, tout le monde la connaît cette affaire-là, mais je l'ai mis parce que j'aime tellement ça.
Et ouais.
Alas. Earwax.
Mais juste là. Alas. earwax. Il est comme... Mais ce que je comprends pas, c'est... Il a pas l'air de regarder sa boîte pour voir le... la couleur qui est earwax.
Puis de se dire après ça, je la reprendrai pas.
Non, non, mais c'est parce que il sait au goût. Ça, ça sous-entend qu'il a déjà mangé de la cire d'oreille. Bon, vrai.
C'est un fait que moi, si je goûtais ça, je... Ah, je sais pas c'est quoi.
Ouais. Fait que, man, Dumbledore, il a déjà goûté à de la cire d'oreille avant. C'est correct. Beau. Peut-être qu'il n'a pas eu dans un bonbon. On va parler de musique.
Cue the music.
J'aime la musique.
Il y a deux mots qui, je pense, peuvent rapidement donner une idée sur la qualité de la musique. John Williams.
Écoute, à chaque fois qu'on fait un film, c'est John Williams qui a fait la musique. C'est ailleurs.
Alors, écoute, on est dans un... Il y a personne là, qui se rend là. Là. Ça, c'est comme... C'est débile.
Et ça n'a aucun bon sens.
Juste tantôt, quand on écoutait John Hurt, là,
ouais, on
puis t'avais le truc en arrière. Ah, tout à coup, la musique a changé. Là, ça rajoute un ton à la scène. T'sais.
Est-ce que je pourrais te demander de remettre le bout de John Hurt?
Ouais.
He who must not be named did great things. Terrible. Great.
Tu sais.
À noter que c'est le thème de Harry Potter, hein. Mais comme trafiqué pour.
Ouais. C'est genre de c'est une. Voyons, une variation.
Variation, voilà.
C'est une superbe trame sonore dans laquelle on a. Tu sais, tu l'as tout le côté merveilleux, tu as le côté. T'entends la magie, t'entends le côté plus sombre, t'entends... Tu sais, toutes les scènes avec les banquets, les affaires, là, pis c'est très, très John Williams, là, ces bouts-là. C'est super féerique. Écoute, c'est incroyable. Le Quidditch, la partie de Quidditch, tu sais.
Puis, si je peux me permettre de passer un commentaire éditorial sur les autres films qui suivent, ça s'améliore encore avec les films jusqu'à ce que ça soit plus John Williams qui fasse la musique.
Ouais. Parce que Prisoner of Azkaban, c'est son dernier.
Oui, c'est ça, mais Harry Potter 2, La Chambre des Secrets, il y a l'espèce de bal qui est là-dedans.
Non, le bal, c'est...
C'est dans lequel ou c'est dans le 3?
C'est dans le 4, le bal, c'est plus John Williams.
Non, il y en a un où est-ce qu'il fait une espèce de musique de bal, mais c'est du John Williams.
Ah ouais?
Oui, en tout cas, parce que moi, je l'ai sur un CD que j'ai, mais... Mais... Ouais, ben, je m'étais fait donner ça sur une gig où est-ce qu'on faisait la musique de film, puis il y avait ça. Puis c'est tiré, il était écrit de Philosopher's Stone, mais je ne l'ai pas entendu dans le film.
J'ai toutes les trames sonores de. Ah non, mais ça, c'est genre, je pense que c'est quand tu vois les banquets, puis ça fait le même. Là, c'est une scène qui. Pour les c'est une tune qui joue dans les. Je crois. En tout cas, je m'en souviens plus. Il faudrait que j'en fous, je les ai toutes. Mais, tu sais, parenthèse, il y a des. Tu sais, à Montréal, l'année passée, il y a eu un show où ils font une orchestre live qui fait la musique d'Harry Potter. Ils ont fait le premier, là, ils vont faire le deuxième. J'ai le goût d'aller voir quand ils vont faire le troisième juste pour rire. Parce que, il y a aucune possibilité que ça soit bon. Même si c'est des très bons musiciens, là, on s'entend, là. Il y a aucune possibilité que ça.
Puis pour ceux qui le savent pas, là. La partition de violon de cette affaire-là, là, c'est tellement difficile. Là.
Non, mais la musique...
C'est vraiment, vraiment difficile.
La musique du premier Harry Potter est très facile. Tu sais, si tu regardes les trois que John Williams a faites, là, non, mais c'est le plus facile des trois.
Ouais, mais la partition de violon...
Ouais. Non, mais je te dis, je vais aller voir le 3 pour rire.
Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Nancy, elle a été engagée pour faire le premier Harry Potter cette année. Et puis, écoute, j'ai entendu du Harry Potter pratiquer l'espèce de passe de violon de malade. Là, je l'ai entendu en masse à la maison. Puis là, elle s'est fait appeler pour faire le deuxième Harry Potter l'année prochaine. Et puis, elle a refusé parce que non, gars, cette année.
Non, puis la différence, mettons, tu sais, le premier, c'est que c'est, oui, il y a de la musique difficile, mais c'est quand même une musique qui est assez, qui est plus simple. au niveau rythmique.
Ouais. Mais facile à écouter.
Ouais.
C'est très agréable à écouter, mais c'est juste dans la performance.
Ouais. Quand vous arrivez au troisième, ça devient très complexe rythmiquement. Là. Ce qui fait que dans un contexte, je sais pas si vous savez, mais ce genre d'affaires-là, ils répètent pas vraiment. Là.
C'est... Non. Ben justement, moi, le moment de la vie où est-ce que j'aurais aimé ça être au studio d'enregistrement, c'est le premier matin que l'orchestre de Pickup se pointe au studio pour enregistrer la musique d'Harry Potter. Puis là, ils s'assoient, puis les violonistes, ils voient cette affaire-là, puis ils font comme « Ah,
damn! » Non, mais tu vois, ce qui est surprenant, soit c'est Londres, soit il y a l'orchestre à Hollywood qui enregistre tout ça, puis eux, là, ils font ça de même avec toi, parce que c'est tout ce qu'ils font dans la vie. Fait que, tu sais, ils sont habitués. Parce que, habituellement, ils n'ont pas les parts. En fait, ils n'ont jamais les parties en avance là, dans le contexte de la musique de film. Fait que, non, c'est génial, c'est bon. Si vous ne l'avez pas, achetez-le, écoutez-le, puis amusez-vous. David!
He scores!
Combien tu donnes?
Je vais donner un 8 sur 10. Un film, un très beau film. On rentre dans un univers. C'est beau, c'est le fun à voir, c'est le fun à entendre. L'histoire est bonne, même si elle va vite. Le 2h30 passe extrêmement rapidement. Petit bémol, la qualité des jeunes acteurs, des enfants, pas toujours au rendez-vous. Les FFV ont un peu mal vieilli.
Moi, j'ai donné 7 sur 10.
Oh, t'as été quand même assez...
Ben tu sais, c'est pas... Je pense que dans les films d'Harry Potter, il y en a des... beaucoup supérieurs. Justement, on parlait de Prisoner of Azkaban. Fait que tu sais, j'ai comme essayé de placer aussi dans la série. Il fallait que je donne une note qui est conséquente selon le reste de la série aussi. C'est un bon film. C'est un film correct, c'est un bon petit film. C'est ça, il y a des fois des petits... Les enfants, c'est un peu plus difficile au niveau acting, mais c'est correct, je les pardonne. Les effets spéciaux ont très mal vieilli, en fait. Là. C'est surprenant comment ça... OK, ça fait 16 ans, mais c'est quand même surprenant. Puis c'est ça, c'est pas l'histoire la plus grandiose de tous les films. Tu sais, s'il y a un bémol que j'ai sur la manière que l'histoire est apportée, c'est que t'as l'impression qu'elle est un peu jammée dans le film, tu sais. Mm-hmm. Quel film essaie juste de te montrer tout le monde d'Harry Potter, puis on a enfoncé un bout d'histoire dedans. T'sais. Fait que c'est pour ça que je donne un 7 sur 10. On a des anniversaires.
Oui, en fait, il y a plusieurs choses dont il faut parler. Le premier, c'est les anniversaires. Premier anniversaire du jour. Aujourd'hui, on est le 20 août.
Ouais.
Ça, 20 août. Anniversaire de Amy Adams, qui joue dans L'Arrivée et qui a joué aussi, évidemment, dans The Office. Elle faisait Katie dans The Office. Donc, elle a 43 ans, je pense, aujourd'hui, si ma mémoire est bonne. Sinon, aussi, Andrew Garfield, notre moins préféré Spider-Man.
Ah, attends, il fait un très bon Spider-Man. C'est juste que les films sont pourris. C'est quand même la meilleure chose du film. C'est lui, là.
On en reparlera un autre moment donné. 34 ans pour Andrew Garfield.
Ah, il a le même âge que moi.
Sinon, Sébastien, aujourd'hui, c'est le temps de présenter nos films du mois de septembre.
Go. Hey, François, t'es là, j'ai oublié le nom de ton film, écris-moi là.
Sinon, donc, au mois de septembre, on a 4 fins de semaine, donc j'ai programmé 3 films parce que notre François Gagné, qui nous donne son film à l'instant, a choisi, puisque c'est un de nos donateurs sur Patreon, il animera conjointement avec nous un épisode. On aura d'ailleurs un autre invité au mois d'octobre, un autre au mois de novembre, ouais, et si je me souviens bien, un autre au mois de décembre.
Yves et Vincent Brossard, il faut que vous choisissiez vos films, puis vous avez octobre, novembre, décembre pour vous choisir, pour vous décider.
Et voilà, donc il y a un des choix qui revient à François Gagné. Sinon, ce que je propose pour le mois de septembre, c'est un festival de films Oui-Mais.
Oui-Mais.
Je m'explique. Oui, de Oui-Mais.
On va écouter les films de Daniel Oui-Mais.
Ce que je veux dire, c'est que dans les comic books, ça arrive souvent où est-ce qu'on a des univers parallèles, tu sais.
Ah ben ouais.
Et Earth 2, puis des affaires de même, tu sais. Donc, ce que je propose, c'est 3 films qu'on a déjà écoutés pour Vision X, mais là, on va écouter l'autre version. Autrement dit, on a fait un épisode de Vision X sur Dredd, on va faire un épisode de Vision X sur Judge Dredd. On a fait donc l'original. On a fait aussi un épisode de Vision X sur Fantastic Four. On va faire l'original de Fantastic Four de 2005. Et finalement, on a écouté un épisode de, on a fait un épisode sur Total Recall. À l'origine, on avait fait l'original. Là, maintenant, on va faire le remake. Voilà, c'est ce que je propose pour les trois épisodes du mois de septembre de Vision X.
François, lui, nous propose Stay Tuned, qui est un film dans lequel, je pense, les parents rentrent dans la télé, là, puis les enfants veulent les sauver. Un film des années 90, là. Très typique des années 90. Là. Fait que tu vois, c'est comme un autre affaire de monde parallèle. C'est des gens qui s'en vont dans la télé.
Et voilà. Tu vois, c'est comme ça.
Tout est dans la toute. Mais. allez faire un tour sur notre Patreon. Patreon.com/sbalbino. 1$ par mois, hein, c'est pas grand chose. C'est moins qu'un café. Ça va nous aider à améliorer certaines affaires d'équipement ou juste payer des frais de l'émission. Puis en plus, c'est ça, si vous donnez 10$ par mois, vous allez pouvoir participer à l'émission. Aussi, j'ai une petite annonce à faire. T'sais, l'émission en ce moment est sur SoundCloud. Éventuellement, je vais arrêter de la mettre sur SoundCloud. Ça va être juste sur notre site internet et sur Balado Québec, sur iTunes, tout ça. Pourquoi? Avant que SoundCloud fasse faillite, parce qu'anyway, ça semble aller inévitablement vers ça. Fait que, puis je pense que c'est devenu assez inutile. Fait que, mais j'avertis, si c'est par là que vous avez que vous allez écouter Vision X, abonnez-vous soit par le site web qui est moitiregeek.com/visionx ou allez sur Balado Québec. C'est la meilleure affaire à faire. Là. C'est juste inutile. Puis c'est ça. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça va bien à SoundCloud. Fait que. On va sortir de là avant que ça nous fie dessus. La semaine prochaine, on va faire un épisode sur The X-Files, le film. Pas un épisode, pas la série au complet. On va écouter toute la série cette semaine.
C'est ça.
Ça, c'était... Voyons, c'est Martin Landau qui joue là-dedans puis qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mais allez faire un tour sur Facebook, hein? Allez liker notre page, ça va nous permettre de savoir quand on enregistre, vous allez pouvoir nous voir live. Écrivez-nous à visionxcast@gmail.com, ça vous, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Sur Twitter, visionx_podcast, là aussi vous allez pouvoir voir quand on enregistre. Écoute, visionx est disponible partout, iTunes. Balado Québec, l'entrée du geek, partout où on est, puis que vous pouvez nous laisser 5 étoiles. Laissez-nous 5 étoiles, ça nous fait plaisir et ça nous aide en plus. Fait que je pense que j'ai assez parlé pour cette semaine. Là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Merci beaucoup, David.
Merci à toi, Sébastien.
À la semaine prochaine. We'll be right back.